O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu.
O Ernesto nos convidou.
No outro dia encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta.
Bonjour, nous revoici à notre rendez-vous avec le Samba do Ernesto, en hommage à Ernesto, notre ami qui a créé l'émission Que Vive à la Musica, maintenant une des plus anciennes de Radio Galère. Et aujourd'hui, c'est notre rendez-vous mensuel avec la musique brésilienne, le Passeio Brasileiro, Passeio Brasileño pour les hispanophones. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité mon ami Cristiano Nascimento, guitariste que j'avais déjà invité ici, mais compositeur, chef d'orchestre à l'occasion, arrangeur. Eh bien oui, tu étais chef d'orchestre au Ballet Gaffiella, plus ou moins. Leader du groupe.
On peut pas appeler chef d'orchestre, ça. Directeur de climat.
Voilà. Et aujourd'hui, en plus, au titre de principal organisateur et âme, avec sa compagne Claire Luzy, du Festival international de Choro qui va se dérouler les prochains jours à Aix-en-Provence. Alors, bonjour Christiane.
Bonjour Jean-José, merci beaucoup pour l'invitation. Bon.
Et bonjour aussi Maître Sidi, c'est toujours
bonjour,
lui
Sidi,
qui nous permet d'enchaîner conversation, musique, sans temps mort. Et tout de suite, puisqu'on parle du Choro, je vais te faire entendre quelque chose que je pense que tu reconnaîtras. Thank you. je pensais que j'arriverais pas à te faire une totale surprise. Tu sais de quoi il s'agit, tu sais où ça se passe et tu connais les gens. Il faut dire, je dis à nos auditeurs, que ça, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur le canal d'un groupe de Rio qui s'appelle Choro no Recreio, où ils ont mis plein de petites vidéos de gens qui jouent du choro en ville. Et donc ici, dis-nous ce que c'était.
Oui, c'est une roda de choro à l'école portátil de musique à Rio de Janeiro. Là, c'est sûrement après chaque cours, les élèves, avant de commencer le bandon, la grande orchestre avec tous les élèves. À l'époque, c'était 300, 400 élèves qui jouaient des arrangements de prof. Et là, ils font une roda de choro informelle. Donc, je connais la plupart des musiciens qui étaient là. Mariana na flûte, Luiz Barcelos, j'ai vu à la mandoline, et ça date là. Je crois que ça fait un bon moment.
Début des années 2000, je crois.
Oui, ouais. Il y a plein de gens qui étaient bien gamins, là, qui aujourd'hui sont plus vieux.
Bon, alors justement, tu as prononcé le premier mot-clé qui va revenir souvent, celui de la rode. Alors, décris ce qu'on voyait à l'image ici. Bon, c'est une rode un peu particulière, puisque c'est dans un cadre de transmission presque scolaire. Mais ce qu'on voyait, c'est des gens de différents âges, de différentes couleurs. Je pense aussi de différents niveaux musicaux, mais qui sont assis en rond et qui font cette musique. Alors, la rode, c'est quelque chose de clé comme structure et aussi comme atmosphère. Comment tu pourrais la décrire ?
En fait, là, on parlait d'une école, mais là, la rode, c'est la vraie école de chorão, de musiciens qui jouent du choro, ou qui vont apprendre à jouer ces répertoires-là. C'est dans les rodes du choro. Et même les profs, c'est là, ils sont dans un contexte plus... académique, ils ont systématisé une chose, mais ils ont pris de la rode et ils disent, on vous apprend comme ici, vous avez même des partitions et tout ça, mais c'est dans les rodes de choses. Si vous ne faites pas de rode de choses, ne participez pas, ça ne sert à rien.
Donc le principe de la rode, c'est
on joue
le mot portugais, qui veut dire on est en rond.
Ronde.
Et donc, au départ, les musiciens jouent entre eux, ce n'est pas un show.
Não, c'est pas um show. Uma roda de choro, ça me fait rigoler mesmo que o Brasil, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, viens, on va à une roda de choro dans tel bar. Não, c'est faux, c'est pas une roda de choro. C'est un groupe qui est embauché, qui est sur une petite scène, ou même s'ils sont rondes, ils se ferment, c'est pas ouvert. C'est pas une roda de choro. C'est un groupe qui fait... façon roda de choro, mais c'est embauché par le bar, pour vendre des bières, et tout ça. Pour moi, ça, c'est pas une roda de choro. C'est un groupe qui met pas en question la qualité. Ça peut être des super musiciens qui jouent comme des dieux, mais c'est pas une roda de choro. C'est des gens embauchés par un patron de bar. Mais une roda de choro, non, la plupart du temps, c'est pas si public que ça. Il y a une idée... reçu ici en Europe, que parfois, il y a tout le bar, moi, j'ai fréquenté, c'était, ça peut avoir dans le bar, mais de façon spontanée, parce qu'on est en train de boire une bière ici, on tire l'instrument, on fait, mais ça va être spontané, mais pas toutes les semaines, dans ces bars. Ceux qui font toutes les semaines dans le bar, c'est un groupe embauché. Et les rodes vont se passer dans un lieu privé, chez quelqu'un qui va faire une fête d'anniversaire, ou même régulièrement, va faire des rodes de choro. Là, à la maison, on va faire à chaque 15 jours une roda. Et qui n'est pas si ouverte que ça, parce que soit tu es invité par le lote, ou tu connais un musicien qui dit « Ah, viens, on va à une roda de choro, je t'amène là, je te présente. » Et commence à participer. C'est comme ça que j'étais introduit, que j'ai commencé à fréquenter. « Ah, viens, je fais une roda à la maison, il y a tel, je te présente, tu vas voir. » C'est comme ça que j'ai connu mon maître, Walter Silva. C'était une copine comme moi. Ah, il vient à la maison, là. C'est quand je te présente, si tu veux.
Bon,
mais c'était chez quelqu'un, dans un cercle privé. Ouais. Donc,
Alors, il y a eu aussi... Alors, le show a toute une histoire. On ne va pas la raconter en détail, mais il vient du mariage d'un certain nombre de mélodies et d'harmonies venues d'Europe et des syncopes... qui venait plutôt des esclaves afro-brésiliens, nés au XIXe siècle. Mais les grands maîtres dont on a le plus retenu le nom En particulier à partir du moment où on a eu de la musique enregistrée. Bon, il y a des noms qu'on entend toujours. Bah, déjà, l'auteur du morceau qu'on a entendu tout à l'heure, Pichinguin. Bah, on va entendre ce morceau par Pichinguin lui-même et ensuite on parlera de, musicalement ce que c'est que le cholo. Christian a rectifié, c'était, il a reconnu tout de suite celui qui jouait, Lupers Milland, tu peux en dire deux mots?
Oui, c'est...
Il a un jeu particulier.
Un jeu particulier, c'est, on a deux écoles de mandoline, si on peut dire, au Brésil. Il y a Lupers Milland avec ses jeux, il était un grand, grand virtuose, hein, qui vient, il venait du nord-est du Brésil, et tout, je ne sais pas exactement quelle ville, et tout, et Jacó, de mandoline. Qui est tout un autre jeu. Mmh. On peut dire un jeu plus carioca. Mmh. Et peut-être moins virtuose, même si c'est virtueux, que Lupers. Mais...
Okay, donc c'était un enregistrement de 1934, on entendait, ça gratte un peu. Donc une autre manière de jouer, ce qu'on avait entendu tout à l'heure dans la rue, à l'école portative. Donc, la composition était de Pichinguin. Alors, après, elle a été re-signée, Pichinguin, à Bénédicte Lacerda. Bon, on aura l'occasion de parler de ce couple que j'appelle les Lennon et McCartney de, du cholo. Et donc, en général, la plupart du temps, donc, le cholo est une musique instrumentale.
Oui.
Donc, quels sont les principaux instruments qu'on entend le plus souvent ?
Plus souvent, donc pour les solistes, on va entendre beaucoup la flûte, beaucoup la mandoline. le clarinette aussi, la clarinette après, mais les deux premiers, flûte et mandoline, c'est beaucoup. Mmh. Il y a beaucoup. Donc clarinette, mais on peut avoir des trombones, comme on a le Zelda Vell, ou trompette, comme soliste, saxophone aussi, même si c'est un peu plus rare, mais il y a eu pas mal, il y a beaucoup en ce moment, de jeunes instrumentistes de saxophone et tout. Dans l'accompagnement, nous avons la guitare à 6 cordes et guitare à 7 cordes, qui font tout un travail ensemble là, de harmonisation. Le cavaquinho, qui c'est un genre de petite guitare, qu'on peut de loin, on peut confondre avec un ukulélé, mais non, c'est un cavaquinho, c'est une corde d'acier, instrument portugais. Et le pandeiro, j'ai oublié.
C'est le tambourin,
mmh. C'est un genre de tambourin, un tambour à cadre avec des cymbalettes autour, qu'on appelle pandeiro.
Oui.
Ça, donc, c'est l'instrument de base. Après, on peut retrouver des orchestrations, qu'on appelle les orchestres gaffiers. Ça ressemblerait un peu au big band.
Oui, on va en entendre tout à l'heure, parce qu'on va, on va essayer de parcourir diverses déclinaisons du choro à travers les âges et selon les formations. Et je disais tout à l'heure que il est plus rare d'entendre des choros chanter. Cependant, sans doute la musique que quelques-uns appellent le deuxième hymne national du Brésil est un choro chanté qu'on va entendre maintenant.
Não sei porquê bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ai, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero o meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração.
Donc on a entendu la version de référence de Carinhos en 1937 avec Orlando Silva au chant, dans ce chant, des chanteurs de radio très, très lyriques, avec plein de vibrato et d'émotions. Et bon, il y a toute une histoire, parce que c'est toi qui me racontais que tu avais vu un concert où Yamandou Koch avait commencé. Ah non, c'est pas toi qui m'as raconté. Que, ben, on m'a raconté que Yamandou Costa faisait un concert à Rio et commence à jouer Carinhoso. Toute la foule a commencé à chanter en chœur. Et donc finalement, il s'est contenté d'accompagner la foule en faisant les accords à la guitare parce que c'était devenu impossible de jouer.
Mais ça arrive avec n'importe qui commence à jouer ces morceaux. Tout le monde va chanter. Hein. Oui. Au Brésil, vous commencez les trois premières notes et vous pouvez lancer que tout le monde chante ça.
Alors, ça me fait plaisir parce que j'écoute beaucoup ce que me disent les puristes de toutes les musiques et en même temps, je vois que ça ne marche jamais le purisme puisque Carinhos, qui a été le plus grand tube, qui a fait gagner de l'argent à Pixinguinha à l'époque, ce qui n'est pas toujours évident pour les musiciens de choro, a d'abord été rejeté par les musiciens de choro. Il l'a composé très jeune, hein, en 1917. Mais apparemment, ce n'était pas orthodoxe parce qu'il était en deux parties et qu'officiellement, il fallait qu'un morceau de choro ait trois parties. Mmh. Donc, il a mis très longtemps à l'enregistrer. Il y a eu plusieurs versions. Et deuxième choc pour les puristes, c'est quand Jean Dubarro a mis des paroles très romantiques dessus et que c'est devenu une chanson à succès. Et alors là, évidemment, il y en a qui se sont pincés le nez en disant « Quelle horreur, maintenant on chante sur le choro ». Et troisième chose pour laquelle on a critiqué à l'époque Pixinguinha, c'est en disant que c'était impur parce qu'il y avait des choses qui ressemblaient à du jazz dedans. Bon, donc, les puristes avaient tort parce que c'est resté et c'est effectivement un des plus grands morceaux qui a un nombre absolument incroyable de reprises dans tous les styles, les meilleurs comme les pires. Mais ça attire toutes sortes de musiciens. Toi, ça t'arrive de pratiquer le choro kansan ou...
Oui, en accompagnant des chanteurs, chanteuses, et ça m'est arrivé à Rio, mais plutôt des samba. De toute façon, j'accompagnais beaucoup plus des samba que de choro, chanter. Mmh. Parce que pour gagner le pain à Rio, là, ça... Ça, c'est le choro, c'est le moment, c'est le plaisir des musiciens. C'est le moment des musiciens, mais après, pour un pain, c'était dans les balles, jouer de choro, mais beaucoup, beaucoup de samba quand même. C'est...
Ben, on aura l'occasion d'en reparler, mais justement, c'est le son qu'on entend, les vieux samba classiques, ceux qu'on aime des années 30-40, le son de l'accompagnement. C'est des musiciens de choro.
Parce que c'est les choros. Oui. Toutes les radios, il y avait un groupe de choro. Il y avait leur orchestre, mais c'était plus simple aussi parce que les musiciens de choro pouvaient avoir une flexibilité d'accompagner n'importe quelle tonalité là, sur le tas, n'importe quel chanteur. On commençait, on faisait juste un point là et c'est parti. Le flûtiste inventait une introduction. Le groupe commençait à accompagner et... Tous les chanteurs pouvaient chanter leur répertoire là. C'était la mini orchestre de toutes les radios et c'était en live quoi, direct. C'est ce sont les musiciens qui ont forgé beaucoup de ce qu'on a de musique brésilienne aujourd'hui, même de jeux, des techniques, c'était ça qui a formé les grands virtuoses de notre histoire.
Et l'intérêt pour eux de l'arrivée de la radio, c'est qu'enfin, ils pouvaient, même si c'était des cachets énormes, être presque régulièrement payés en faisant de la musique. Alors qu'avant, on voit pour beaucoup d'entre eux, pour des gens comme Pixinguinha, très tôt, il est vraiment devenu musicien professionnel avec son orchestre. Il est même venu en France au début des années 20. Mais pour d'autres, quand on regarde leur biographie, on s'aperçoit celui-là est fonctionnaire dans un ministère, l'autre a un autre travail. Et on voit à partir des années 30, je pense à Jacob de Bandoline, dont on reparlera, seulement dans les années 30, qu'enfin il a un engagement à la radio et qu'il peut laisser son boulot parce qu'on va le payer pour faire de la musique. Ça n'a pas été tout de suite. Même si c'est des gens qui jouaient très jeunes.
Je
me
demande si elle n'est pas restée quand même dans son boulot. Elle était fonctionnaire. Je crois qu'elle est restée jusqu'à la fin quand même fonctionnaire.
Ah, il faudrait vérifier.
Je ne sais pas. Ça, je suis très mauvais en histoire. Je retiens quelques histoires qu'on m'a racontées dans les rôles des vieux. Des choses que je lis, mais...
mais c'est comme ça que c'est intéressant. Quand on veut chercher, on va dans les livres. Autrement, ça se transmet avec anecdotes, des conversations. Alors là, le choro a voyagé même d'une manière quelquefois étrange et il m'est arrivé de parler avec des gens en disant « Mais si, tu en connais !» Alors on me dit « Mais non, j'ai jamais entendu ça. Mais tu vas voir que tu vas entendre. Et Sidi va nous envoyer quelque chose. »
Tico par-ci, tico-tico par-là, dans toutes ces villes on n'entend plus que ce nom-là. Il passe par ici, il va passer par là, comme il est beau dans son costume de gala. Coiffé d'un sombrero, les cuisses bien à plat, sur son cheval il se promène à petits pas. De ses cheveux frisés, lustrés de gomina, il fait rêver toutes les belles de la Rambla. On dit tout bas que son grand-père était corsaire, qu'il faisait la tête des noirs à Buenos Aires. Et patati et patata dans la maison qu'il habita, tout le gratin de l'Alcala y défila. Tico Tico devint l'unique légataire de son cheval, de son magot et de ses terres. Il peut garder devant chacun son sombrero. C'est un cavallero, Tico Tico. Tico Tico par-ci, Tico Tico par-là. Mais que fait-il exactement ce garçon-là? Sur le coup de midi, il prend son malacca. Pour remplir toute une journée, ça ne suffit pas. Pour être plus précis, un jour on le pressa de s'expliquer à la police sur son pas. Quand on le relâcha, un bon gendarme a dit: il n'y a vraiment pas de quoi faire un chat. On dit tout bas que son grand-père était corsaire, qu'il faisait la traite des noirs à Buenos Aires. Et patati et patata dans la maison qu'il habita, tout le gratin de l'Alcala y défila. Tico Tico devint l'unique légataire de son cheval, de son magot et de ses terres. Il peut garder devant tout le monde son sombrero. C'est un vrai caballero, Tico Tico. Tico
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 Tico.
Oh, Tico Tico Tico. Tico 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 Tico. Tico, 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 tico. On dit tout bas que son grand-père était corsaire, qu'il faisait la traite des noirs à Buenos Aires. Et patati et patata dans la maison qu'il habita, tout le gratin de l'Alcala y défila. Et depuis le corps malgache des affaires, il a de l'or à ne pas savoir qu'en faire. Quand on veut tenir son rang, il faut ce qu'il faut. C'est mes caballero, tico tico. Qu'il faisait la traite des noirs à Buenos Aires. Tico Tico par correction a pris la même profession, mais il a dû pour son honneur changer de couleur. Et depuis Torma de la gratisse des affaires, il a de l'or à ne vraiment savoir qu'en faire. Parce que l'on veut tenir son rang, il faut ce qu'il faut. C'est un vrai cavallero, Tico Tico.
Ah, j'ai réussi à surprendre Cristiano, il n'avait jamais entendu celle-là. Donc c'était en 1946 en France, une chanteuse de variété rigolote qui s'appelait Lynn Clevers. Il y a eu deux enregistrements par deux chanteuses différentes en 1946 de cette chanson. Et tu m'as fait une remarque à propos de l'accompagnement.
Oui, oui, c'est le cliché, c'est comme les Américains qu'on vont faire, ils ont fait avec Carmen aussi parfois. Les clichés rythmiques et un peu Latin jazz, que ça sonne plus Latin jazz que brésilien, en oui, fait. Oui.
Mais comme beaucoup de ces chansons brésiliennes qui arrivent à la fin des années 40 en France, probablement grâce à l'entremise de l'orchestre de Ray Ventura, qui avait passé les 4 ans de la guerre à jouer à Rio au Casino de Urca. Les gens reprennent ça avec tout un tas de caricatures, aussi bien dans les paroles que dans la musique, parce que les paroles mélangent tous les pays d'Amérique latine en faisant un seul. Bon, n'empêche que ça a eu l'avantage que beaucoup de gens ont eu au moins la mélodie de Tico Tico sans même savoir d'où ça venait, mais elle est devenue mondiale dès ces années-là. D'ailleurs... notre ami Yves Guenoun, que je salue, mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui avec nous.
Salut Yves.
Parce qu'il est malade, me disait que c'est au début des années 50 que pour la première fois, dans un entracte de cinéma, le premier show qu'il a entendu, il ne savait pas évidemment, c'était un très jeune garçon, ce que c'était, mais ça date du début des années 50, en Afrique du Nord, il entend un show au milieu d'un spectacle comme ça. Bon, mais dans ces années-là, les années 40, début des années 50, c'est le moment du grand développement, on en parlait tout à l'heure, des orchestres de gaffier, là, où donc on enrichit de plus en plus les orchestrations de choro, on met des groupes plus nombreux autour, quelquefois, tu le disais, qui vont jusqu'à la taille des big bands américains. Mmh. Et là, ça devient ce que ce n'était pas forcément au départ, une musique de danse. Donc, on va entendre ce que ça peut donner, la même musique, mais pour des danseurs au début des années 50. Avec des arrangements spectaculaires pour salle de bal. Au début, on aurait cru qu'elle allait commencer un passo doble. Et puis à la fin, ce ta-ta-ta, comme ça. Bon, au moins les danseurs savent que c'est fini. Donc, on avait ici Sivouk, qui devait être bien jeune en 1952. Je n'ai pas vérifié, mais vu le nombre d'années qu'il a joué, effectivement. Et donc, ça, c'était version pour faire danser les gens. Et on remarquait que dans l'orchestre, par exemple, on entendait un son un peu inhabituel, qui est celui d'une contrebasse. Mais quand l'orchestre devient un peu plus volumineux, il n'y a plus seulement la guitare à sept cordes, il y a aussi la contrebasse.
Non, mais même dans les disques de régional, on peut entendre dans les disques de Jaco, par exemple, il y avait, même si c'était un groupe, un petit groupe, il y avait la contrebasse. Au fond, en plus de la 7 cordes, le 6 cordes. Mmh. Mais très discrète.
Oui, bien sûr.
Juste pour
arrondir le son. Ouais. Donc, alors le solo est passé par diverses formes d'orchestration. Comme d'autres musiques à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Une musique qui était née, par exemple, il y a une époque où le solo se jouait beaucoup dans les pianos. Donc il fallait déjà être chez la petite bourgeoisie parce qu'il fallait se payer un piano et une pièce pour faire du piano. Mais le circuit pour atteindre le public, ça a été pareil en Europe avec la musique classique, ça a souvent été les fanfares. Et je voudrais faire entendre maintenant un des plus anciens enregistrements qui existent d'un classique du solo que tu reconnaîtras évidemment.
Thank you.
Excusez-nous, il y en a un qui est parti trop vite. On avait un morceau d'avance, on l'entendra tout à l'heure. Ça peut partir là ? Vas-y.
Brejeiro, tango, pela banda do corpo de bombeiros, pra casa Edson, Rio de Janeiro.
C'est un des plus vieux enregistrements écoutables qu'on trouve dans la musique brésilienne. Alors, ça, c'était en 1904, la fanfare des pompiers de Rio de Janeiro, qui jouait Brejeiro de Ernesto Nazareth. Alors, Ernesto Nazareth, c'était un pianiste, lui.
Oui, un grand pianiste, passionné par Chopin. Il était un passionné de Chopin et ça s'entend dans sa musique. On fait même une blague, une petite blague, on dit que Nazareth, c'est Chopin. Il était né au Brésil, ou s'il était africain, c'est un Chopin africain, ça fait Ernesto Nazareth. Oui. Donc ça donne cette musique pétillante et c'est un des grands piliers de la musique brésilienne, composé énormément de choses et des très très belles pages de musique. Et moi, particulièrement, c'est mon compositeur préféré dans où on trouve vraiment, quand on écoute sa musique, on trouve les bases, vraiment, et c'est d'une beauté incroyable. Ça me touche beaucoup, ce compositeur, Ernesto Nazareth.
Et là, à propos de cette fanfare, bon, on parlait pendant que le micro était coupé. On disait que c'était un son qu'on aurait du mal à avoir dans une fanfare européenne, mais que pour moi, je le rapproche quelquefois au très vieux son qu'on peut avoir des fanfares à la Nouvelle-Orléans du temps du ragtime. Parce qu'il y a, il y a une espèce d'extrême précision et un swing dans le rythme qui n'est pas dans les habitudes des fanfares européennes. Quoi. Mm-hmm. Il n'y a plus du tout le côté militaire de la fanfare là-dedans.
Oui, mais on peut avoir aussi ce côté militaire, parce que faisait partie d'un autre style, comme les marchings, tu vois, les dobrades, tout ça. On peut voir ce côté militaire, mais que... Il y a toujours ces,
oui,
ces déhanchés.
Oui, ici, ça invite plutôt effectivement, au marché déhanché et à la danse dans la rue. Voilà, oui, effectivement, alors le show, donc, c'est promener du salon au quintal, la cour. Il s'est promené du piano au fanfare. Et de temps en temps, il est allé voir aussi, il a intéressé des musiciens. Eux complètement dans l'univers de la musique classique, des orchestres, etc. Et on va en entendre un petit peu ce que ça donne quand il sort de l'univers strict de la Rhode, mais qui va se matiner de ce qu'il y a dans les environs. Donc ça, c'était de nouveau Bléger, de Ernest Nazareth, mais cette fois-ci joué par une guitariste classique. Tu as entendu du premier coup que ça venait dans un autre style. On l'avait vu il y a quelques mois à Marseille, c'est Gaël Solal, quelqu'un qui a fait ses études d'abord au Conservatoire de Marseille, puis qui ensuite a été étudié avec Roland Diens. Il a fait un album donc entièrement guitare solo en hommage à Villa-Lobos, mais elle a tenu à mettre dedans trois ou quatre choses que Villa-Lobos aimait aussi, parce que moi je trouve qu'on entend quand elle joue, que c'est pas seulement comme quelquefois quand on entend Villa-Lobos, quelqu'un qui est d'un monde classique européen, qui prend une partition et qui la joue. Elle est allée plusieurs fois traîner dans les Rhodes à Rio avant d'oser enregistrer quelque chose en disant il faut qu'il y ait un peu le sel et le poivre brésilien, sinon ça devient quelquefois très fade. Et justement, Villa-Lobos a composé. Alors, quelquefois, je suis un peu perplexe parce que je connais pas assez la technique, mais il y a des choses qui s'appellent choro chez lui. Je vois plus du tout le rapport avec le choro. Alors, je ne sais pas si j'ai tort.
Il y a des choses qu'on peut être. Se demander où est la rythmique parce qu'il ne va pas faire un truc explicite. Mais par exemple, il y a le choro numéro 10, lequel il y a un scottish de Anacleto de Medeiros, par exemple, dedans, mais que ça ne ressemble pas du tout au choro. Il y a mis un arrangement tellement. J'adore. Hein, j'adore, mais. Qu'on ne peut pas entendre le choro comme choro. Il faut vraiment.
C'est plus intime.
Trouver autrement, c'est plus intime.
Ouais.
Mais quand on connaît un peu le style, on reconnaît certaines choses de choro. Notamment, là, c'est le plus explicite, c'est le choro numéro 10. Il y a carrément la mélodie avec les... Si je ne me trompe pas, il y a même les paroles. Il y a gardé les paroles originales dedans, le chœur qui chante. C'est magnifique. Hein. Choro numéro 10.
Alors ça, c'est pas toujours fait dans la facilité, puisque on raconte que lui, son instrument préféré, c'était la guitare,
mais oui,
que
c'est pas, hein,
c'est
il
pas du tout ça.
Choro.
Oui, mais c'est pas du tout ça que cherchait sa famille au départ, qui lui avait fait faire du violoncelle parce que c'était beaucoup plus chic et beaucoup plus noble. Mais donc, il allait s'encanailler entre guillemets dans les Rhodes de Choro, ce qui c'est un des éléments qui ont permis à sa musique de toujours garder ce caractère tellement brésilien, quoi. Même quand il écrit pour grand orchestre.
Ah oui, c'est vraiment, il a gardé cette brasilité. Vraiment, peut-être c'est dû à ces Rhodes de Choro qu'il a fréquenté, qu'il sautait la fenêtre le soir pour y aller dans la bohémie. Donc c'était un grand chorão. Un guitariste qui accompagnait.
Et donc, il y a eu des. Chez les gens du choro, il y a eu aussi une tradition. On en parlait tout à l'heure pour Pixinguinha, qui a eu des contrats dans les années 30 avec les radios, non seulement pour accompagner, mais pour concevoir les arrangements.
Oui. Et diriger
l'orchestre. Oui, diriger. Donc,
le programme pessoal da Velha Guarda, qui a dirigé, qui avait l'orchestre.
C'était une musique. Alors, j'aime pas beaucoup les distinctions entre musique populaire et savante, parce qu'il y a des musiques populaires qui sont très savantes. Mais en tout cas, c'est une musique qui se sophistique, qui se devient plus complexe. Et il y a aussi une tradition qui vient de là. Ben là, on va entendre un hommage à un musicien qui, d'ailleurs, avait succédé à Pixinguinha dans son rôle d'arrangeur pour la radio.
Thank you.
Donc, alors là, on va encore prononcer des noms de gens très importants. Donc, Radames Gnatali, puisqu'ici, c'était un hommage à Radames Gnatali par Pauline Daviole. Donc, Radames Gnatali, il avait travaillé avec Pichinguin comme arrangeur dans la même maison pour les enregistrements. Et ensuite, il est resté très longtemps, même quand Pichinguin a cessé d'avoir cette fonction. Tu disais que il a encore apporté autre chose dans les arrangements.
Oui, on va dire moderne. Il y avait dans ses compositions, dans les arrangements, il a vraiment apporté beaucoup de choses à la musique, avec des accords pas courants dans cette musique, mais avec, comme il était un fan connaisseur, profond connaisseur de cette musique-là, il a apporté sans. Et c'était jamais. Ça dénaturait jamais. Ça ressemblait toujours du choro. Ça ne devenait pas une autre chose. C'était aussi très fin et beau, ce qu'il a porté Radames. Ce côté moderne, mais respectueux.
Ça continue à être. C'est ça qui est intéressant. Comme beaucoup de musique qu'on défend dans cette émission, une tradition vivante, c'est une tradition qui évolue. Donc la difficulté. Alors il y a des essais et des erreurs de temps en temps. C'est là que les puristes la ramènent en disant: ah, quelle horreur, on a fait ce qu'il ne fallait pas. Mais si on n'essaye pas, on ne trouve pas. Intéressant. Et ici, donc, la surprise, tu disais que beaucoup de gens ignorent, et moi j'ignorais jusqu'à il y a peu de temps, que le compositeur ici est guitariste, c'était plutôt cavaquiniste, c'était Pauline Daviole, qui est surtout connue pour des sambas extrêmement fameux, mais qui est aussi un grand musicien et compositeur de choro.
Ah oui, c'est un grand choron, Pauline Daviole, qui a fêté pas longtemps ses 80 ans. Et quelqu'un qui a été bercé dans le choro. Son père était le guitariste de Jacó de Bandolim. Après, à l'époque du ouro et tout, il a continué jusqu'à sa mort, son père. Et lui, il était bercé. Il était dans des rodes de choro de chez Jacó. D'autres, il compose énormément de choro dans toute son œuvre, on peut trouver des disques dédiés exclusivement au choro. Donc, il y a mémoires, choro de mémoires, on peut trouver ça dans les plateformes facilement. Choro de mémoires de Pauline Daviole, c'est magnifique.
C'est sans doute aussi un des éléments qui donne la finesse et la délicatesse de ces sambas.
Je suis sûr.
C'est toujours subtil.
C'est là qui fait la grande différence par rapport à d'autres compositeurs.
Alors il y a des gens, on a l'exemple avec Pauline Daviole, qui au sens strict du terme était dans le show depuis le berceau. Et puis, il y a des musiciens venus d'autres musiques qui s'y sont intéressés. On a vu tout à l'heure avec les gens venus de la musique classique. Il y a aussi des musiciens venus du jazz qui se sont posés des questions. Alors, là aussi, avec des succès et des échecs sur qu'est-ce que c'est cette musique qui est aussi mélange d'Europe et d'Afrique qui s'est produit en Amérique, où il y a de l'improvisation, mais une improvisation qui est selon des règles totalement différentes du jazz. Donc on va entendre une tentative en ce sens, et on en reparlera après. Thank you. Donc, c'était un autre grand tube de Pissinghi, un rose, qui a été connu pour sa version instrumentale, mais aussi pour la chanson. Et tu me disais que la chanson avait fait oublier qu'il y avait une partie qu'on
une troisième qui n'est partie, pas
chantée. Oui.
Parce que la chanson, il chante que sur le A et le B, mais il y a un C. Ouais.
D'accord. Et ici, il y avait tout.
Oui. Ouais.
Donc ici, c'est un disque... un peu bizarre que j'aime bien, de rencontre entre trois guitaristes. Alors ici, celui qui a fait l'arrangement et qui était leader sur ce morceau, c'est Carlos Barbosa Lima, qui vient du classique, un Brésilien qui vient du classique. Il était avec Laurindo Almeida, qui est donc un guitariste brésilien de jazz qui a fait une grande partie de sa carrière aux États-Unis, et Charlie Bird, qui est un guitariste de jazz nord-américain, qui s'est à un moment de sa vie passionné pour la musique du Brésil, puisque c'est lui qui a fait connaître les premières bossa nova à Stan Getz. Parce que après un voyage à Rio en 61, il a acheté tous les disques qu'il pouvait acheter, il est venu écouter ce truc. Donc ici, ils essayent de marier trois sonorités dans une version très sobre et très respectueuse de cette chanson de Pissinghi. Alors, il y a le show a fini par... il y a eu des hauts et des bas, on va en parler dans quelques minutes, à propos des moments de désespoir de Jacob Bandoli. Mais j'ai l'impression qu'il reconnaît, de nouveau, il connaît une espèce d'expansion, non seulement au Brésil, mais à l'échelle internationale. On voit des...
Ah oui, de plus en plus. Hein. C'est impressionnant. Là, ça commence... Il y a eu un moment que ça stationnait un peu, mais là, je vois que ça a repris en dehors du Brésil. Beaucoup, il y a beaucoup de pays, notamment en Europe. En Europe, qui font... En ce moment, même, il y a des collègues, des amis à Munich... qui font leur festival de choro, par exemple. Donc, pour les nouveaux, né, je sais qu'il y a des choses à Cologne, en Allemagne, il y a des groupes qui se sont formés. Et après, les plus anciens ici, c'est nos amis de Paris et de Toulouse. Et là, il y a la Casa de Choro de Toulouse, d'Olivier Loeb. Et le Club de Choro de Paris, e de Maria Inês Guimarães, donc c'est des amis que on aime bien, qu'on s'inspire beaucoup de tout le travail fait, c'est les précurseurs en Europe, je pense, hein. Depuis plus de 20 ans qu'ils sont là et tiennent bien la route, qu'ils font leur festival et les stages, ça continue, et plein d'autres. C'est
donc, et toi, tu fais le travail pour implanter le choro dans notre région?
J'ai eu au tout début cette comment dire,
cette ambition.
Cette ambition, je crois que je pouvais, parce que déjà je voulais faire comme on fait Rio. j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que c'est impossible. On n'est pas Rio, la culture n'est pas la même, donc tu ne peux pas reproduire. Il faut faire une chose neuve, en fait, donc, à partir de cette musique. Mais comme j'habite un peu loin aussi des centres, des villes, j'habite, et pour moi, ça, c'est très difficile. Et moi, Claire, après, on a une vie de famille aussi. D'être présent tout le week-end, c'est quelque chose. Pour faire une rode, il faut être toutes les semaines là pour vraiment fidéliser et tout ça. Et après, il y a eu beaucoup de déceptions. Hein. Moi, premier, ça ne m'intéresse pas de passer, investir beaucoup de temps pour, à la fin, jouer les mêmes 10 choros pendant 5 ans. Que les gens, que ça devient juste un bœuf, comme ça, allez, je fais les grilles improvisées. J'aime beaucoup le choro. Le répertoire, il est tellement vaste. J'aimerais bien jouer le maximum de répertoire, le maximum possible. Apprendre de nouveaux choros. C'est ça qui nous fait grandir tout ça. Parce qu'on a essayé hein, pendant ces 15 ans que l'association La Roda existe. On a fait plusieurs fois. On a fait ici à Marseille, à l'Équitable Café. On a fait à Aix un peu au tout début. Ça marche bien au tout début, venez, mais à la fin, on jouait toujours les mêmes 10 choros. Il n'y avait pas, c'était pas suivi. Je t'avoue que dans ce sens-là, ça. Pour faire rester à la maison, on attend les amis de passage, on fait des rodes, on reste dans le cadre privé. Et le côté aussi, vendre des bières pour patron de bar, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, dès que tu parles de. Bon, il faut avoir nos contributions, il faut payer parce que, vous savez, hein, c'est illégal de payer les musiciens au noir. Même le musicien de jouer au noir, il faut faire du cachet. Le travail dur, il doit être salarié. Et on avait toujours cette même bagarre. Que les gens voulaient bien, ils me disaient, vous êtes sympathique, mais moi, ça ne m'intéresse pas d'être payé en bière. Hein. non, je travaille.
Il y a un endroit où.
Après, c'est dans le cadre, si tu fais un bar, il faut avoir cette relation. Tu es un musicien embauché. Donc, ce n'est pas vraiment une roda du choro. Ça, je suis bien conscient. C'est pour ça. Donc, je ne veux pas avoir cette relation. Je fais dans le cadre privé, quand j'ai des amis, on a une fête, on invite des amis qui connaissent bien le répertoire, qu'on aime bien, on fait à la maison. Et on est bien content. Ou dans le cadre de. Là, par exemple, on fait notre premier festival de choro, on aura plein de chorões, de gens qu'on connaît bien, qui jouent et qu'on va faire. On va jouer presque tous les jours. Hein. Là, on va.
Alors, justement, parlons-en. Ça commence le vendredi 10 février. Et là, alors, c'est pas du show, bien que ça ait un rapport, puisque vous allez reprendre, Claire et toi, le concert Comté Boum Boum Bœuf, qui est justement l'histoire de la circulation de ce show qui est venu en Europe dans les bagages de Damis Milo.
Avant, cette musique européenne qui part au Brésil, qui transforme, qui donne naissance au show, qui revient en France et transforme la culture française, notamment avec l'expression française « faire le bœuf ». Le scoop, ça vient du Brésil.
Ouais.
Si vous voulez savoir tous les détails, c'est le 10.
Voilà.
Pour voir le 10
à 18h à Aix, au Théâtre Bellegarde. C'est recommandé, vous pouvez venir avec vos enfants à partir de 5 ans, parce que c'est drôle, c'est vivant, c'est festif. Même si Cristiano est tellement pris par l'organisation du festival qu'il a du mal à répéter ce spectacle qui a été déjà donné il y a plusieurs années. Le mercredi 15... Il y aura au Conservatoire Darius Milhaud à Aix toujours un concert-conférence sur le choro par Pedro Aragão. Tu peux nous le présenter?
Oui, Pedro Aragão, c'est quelqu'un de spécial pour nous, hein, qu'on connaît déjà plusieurs années. Claire, elle était accueillie par lui quand elle est partie au Brésil, décider d'étudier la mandoline brésilienne. Donc lui, il parle français très bien, donc c'est... lui qui l'accueille là-bas, qui le présente tous. Et lui, il est un des fondateurs de la Casa de Choro de Rio de Janeiro, la Escola Portátil, coordenador pedagógico. C'est um chef d'orchestre, arrangeur, c'est quelqu'un qui fait énormément pour cette musique, il fait encore. Et quelqu'un qui sait transmettre très, très bien cette musique, qui connaît vraiment profondément beaucoup et quelqu'un de très généreux.
Bon, avant de continuer le programme, on va entendre quelqu'un qui sait aussi transmettre la musique brésilienne. Bien, ça nous permet de présenter une autre invitée du festival que nous connaissons bien, Velioc, Véronique Lerme, qui jouait ici toute seule en se réenregistrant avec des bruits de percussions sur des assiettes et d'autres choses et qui s'accompagnait elle-même en chantant un choro de sa composition, oui. Choro Sorrindo.
Ah oui, j'adore.
Donc elle vient le samedi 18 février. Et alors, je vois concert-film, Velioc et son choro. De quoi s'agit-il ?
Oui, ils vont passer le film, le documentaire Nas Rodas de Choro, de Milena Sá. Pour moi, c'est le mieux film qui parle sur le choro, sur les rodas de choro. Ce qui traduit vraiment la vérité sur le choro, c'est celui-là. Tous les autres que j'ai vus... C'est celui-là, c'est la grande référence, hein, Nas Rodas de Choro. E ela vai commenter, parce qu'elle connaît beaucoup de gens qui passent là dans ces documentaires et tout, faisant un concert et un bate-papo avec le public.
Bate-papo, c'est la conversation libre.
Le brin de Cosette.
Voilà, c'est ça, un brin de Cosette. Et c'est suivi le même soir, samedi 18 février, par un concert à 20h30 à la Manufacture, avec en première partie Claire Luzy, je crois que c'est...
Juste après Velioc, il y a Karine Wett à sa table, qui invite à sa table, dans le bistrot Méjane, bistrot de la Manufacture, juste à côté. Donc dans le bistrot, le bistrot sera ouvert, donc on peut se restaurer et tout. Et l'accordéoniste Karine Wett, qui va inviter les musiciens. Le festival a fait du choro là, en mode rod un peu, mais en duo. Elle a fait plusieurs duos ou trios, je ne sais pas quoi.
Bon, ça a été ajouté au programme. C'était pas sur le programme imprimé, donc c'est tant mieux, ça fait une chose de plus. Et ouais, à 20h30, donc, un concert de Pedro Aragon, précédé par une première partie de Claire Luzy.
Oui, d'une création, parce que le festival est aussi une création, qu'on fait en plus des concerts et des stages, donc de Claire Luzy, donc auteur, chanteuse et mandoliniste, donc accompagnée par Veriok, qui fait partie de son groupe en guitare et beatbox, Emilia Chamon, percussion et pandeiro, et Karine Ouette à l'accordéon, donc autour de ses chansons. Donc à Claire, des chansons qui sont notamment beaucoup inspirées du choro.
Première mondiale, donc, oui. À cette occasion.
Donc, c'est sorti de résidence, là, pour la partie.
Et donc, ensuite,
showcase.
Pardon. Ensuite, Pedro Aragon, donc, qui joue avec vous.
Oui, et je veux l'accompagner, j'aurai l'honneur de l'accompagner à la première moitié de son concert. Et après, on va se rajouter, tous les musiciens de festival vont se rajouter petit à petit pour finir son concert du choro.
D'accord, et puis le temps que vous passiez une bonne nuit, que vous vous réveillez, ça reprend dimanche 19 février à partir de 14h au Petit Duc.
Oui, à la Forge, qu'ils ont une salle d'entrée là, qu'ils ont deux salles. Il y a la salle principale, et au début, qu'ils appellent la Forge. Il y a un genre de piano-bar, donc on fait une roda de 14h à 18h non-stop.
Bon.
C'est 4 heures de choro sans s'arrêter.
Et si vous ne connaissez pas, c'est apprendre au sens littéral du terme.
Ah oui,
ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire on enchaîne un morceau avec l'autre. On essaye de ravitailler les musiciens parce que de temps en temps, ils ont soif ou faim. Mais ils ont à peine le temps de s'interrompre pour avaler quelque chose et ça continue. Et ça vaut vraiment le coup. Venez tous âges. La dernière fois qu'on a vu ça là-bas, il y avait des enfants qui jouaient autour, etc. C'était une vraie ambiance de Rhodes. Donc, je le rappelle, vous trouvez tout le programme sur le site de l'association La Rhodes, laroda.fr. C'est du 10 février au 19 février. Et pendant ce temps-là, en plus, dans les journées, il y aura des stages de choro, mais ça, je suppose que les gens sont déjà inscrits.
Il y a un petit détail important, c'est que vous pouvez soutenir la Rhodes. Il y a une cagnotte, un LOASO, qu'on peut trouver sur le site, là, le www.larhodes.fr. Il y a l'indication, le lien pour aller vers la cagnotte, parce qu'on a besoin de vous.
Eh oui. Parce que malheureusement, les gens qui ont le pouvoir sur les subventions ne se sont pas aperçus qu'il y a un événement musical très important à Aix.
Oui, on a, bien sûr, on a des aides, hein, il y a des partenariats, donc la ville, les partenaires, nous, la manufacture, le conservatoire d'Aix-en-Provence d'Arizmio, d'OSI-2M, l'Institut international de musique du monde. Que partenaire, il y a le Aix-en-Bus, Keolis, qui nous aide avec les diffusions, dans tout ça, on a des aides, mais on a besoin de encore un peu parce qu'il y a beaucoup de musiciens, il y a tous les cachets à faire, tout ça, ça coûte cher, hein, le festival, et tout ça, toute aide est bienvenue, bien entendu.
Bien. Il nous reste encore quelques minutes pour écouter deux ou trois choses, donc on va passer au suivant.
Primeiro amor, valsa executada por Patapio Silva, para casa do Rio de Janeiro. I'm going to go to the hospital.
Enregistrement très très ancien qu'on a de quelqu'un qui était un très grand flûtiste avant même Pichinguy, c'était Patapio Silva, qui malheureusement est mort très jeune, à 27 ans, alors qu'il commençait à obtenir du succès à Rio et dans d'autres grandes capitales du Brésil. Et il avait même le projet de venir jouer en Europe. Et c'est pour ça qu'il avait fait une tournée dans les grandes villes du Sud pour ramasser de l'argent afin de se payer ce voyage. Et il a attrapé une fièvre foudroyante qu'il a tuée à 27 ans. Donc le choro aurait pu arriver en Europe avant 1910, mais malheureusement, le destin n'en a pas voulu comme ça. Bon, effectivement, la flûte, dès le départ, a été un instrument très important et continue à être...
Par exemple, on a le nom... Un des plus importants qui se considère comme le père du choro, c'est le Joaquim Calado, qui était un grand flûtiste, donc qui a composé énormément de choses, dont la célèbre Flor Amorosa, une polka choro. Si je ne me trompe pas, c'est là qu'on voit écrit sur une partie, pour la première fois, le mot choro. Donc c'est lui qui donne un peu forme au trio idéal, hein, au trio parfait. Donc c'était guitare, cavaquinho et flûte. C'était le trio de choro de l'époque, ça commence à animer les fêtes et tout ça. Donc la flûte, oui, c'est, je crois que c'est l'instrument pionnier là, pour les solos.
Et qui continue, donc ça s'est transmis, Pichinguy, la Cerda, ça va jusqu'à Altamiro Carrillo, des gens comme ça, c'est effectivement une grande tradition. Ce qui est pas forcément dans les clichés qu'on a sur la musique brésilienne. Il y a eu beaucoup de très grands flûtistes. Bon, maintenant, on en vient enfin, puisqu'on arrive à la fin. Je voulais arriver à Jacob Bandolim. Donc, avec un petit clin d'œil à Claire, notre grande mandoliniste de show local. Donc, bon, en général, quand on résume les choros à deux noms, on dit Pichinguy et Jacob Bandolim.
Jacob Bandolim, voilà. Oui, c'est, on peut résumer comme ça.
Voilà, comme à la
même
fois...
Même si je trouve qu'il faut mettre Ernesto Nazaré,
Anacleto
de Medeiros.
Par définition, dans un résumé, on ne dit pas tout.
Oui.
Donc,
rajoutons juste Ernesto Nazaré, là, pour le
d'accord.
Trio.
Bon, on va l'entendre, Jacob. Thank you. Celle-là, c'était peut-être la musique préférée de tout le programme que je t'ai fabriqué. Ah, ça marche à tous les coups, elle m'émeut. Donc j'ai gagné du temps en parlant d'autres choses. Mais je suis très très ému. Bon, Jacob Bandolin, donc qui a contribué, tu disais, à fixer les règles du choro contemporain.
Oui. Oh,
et ouais. Qui, alors, on a la chance évidemment
à transformer en naturel le choro en deux parties, ce qu'on parlait de carinhoso, qui avait que deux parties, que Pixinguinha, il était les puristes, disaient non, ça peut pas, il faut trois parties. Bon, maintenant c'est normal.
D'accord.
Je pense que c'est grâce à Jacob aussi qu'il a fait beaucoup de choro en deux parties.
Et alors c'est, alors son grand groupe s'appelait Época de Ouro, il était conscient de sa valeur. C'était Âge d'or. Ouais. Et on dit que dans ses toutes dernières années, il était un peu triste. Il y a plusieurs témoignages de ses compagnons qui disent qu'après nous, le choro va disparaître. Ouais. Et donc, heureusement, il n'a pas disparu.
Il disait dans une interview, là, c'est un instrument que je peux t'envoyer après, qu'il avait peur Il était presque sûr, il était sûr que ça aurait disparaître, qu'on lui serait mort, parce qu'il n'y aurait plus personne pour défendre le choro, comme défendre le choro, sans qu'il avait peur des modernistes, des gens qui voulaient s'amuser, là, les modernes. Il disait ça. Les gens qui ne connaissent rien de choro, qui veulent s'aventurer, les aventuriers, et... connaît rien, qui va le faire le truc. Moi, je fais, mais je connais très bien. Je fais expérience. Je n'appelle pas de choro, mais expérience. J'ai beaucoup de respect, mais c'est des expériences de choro. Je n'appelle pas de choro.
Oui. Oui, on dit qu'il avait un mauvais caractère en plus. C'était...
Oui, peut-être. Je ne sais pas.
Il y a des anecdotes comme ça sur des disputes avec des gens qui critiquaient.
Il disait ce qu'il pensait. Mais...
Bon, dans une époque où c'est vrai, c'était pas ce qui passait le plus à la radio, à la télé. Il passait d'autres musiques, quelquefois très bonnes, mais le choro tendait un peu à être effacé de la scène officielle.
Oui,
bon, heureusement pour nous, il a repris. Je crois que puisqu'on va vers la fin de l'émission, bon, j'avais préparé de quoi faire au moins 5 heures, mais bon, on va s'arrêter là.
Merci beaucoup.
Ben, un successeur, pendant qu'on se dit au revoir, on va entendre un de ses successeurs, qui était un jeune homme quand il a enregistré ça, il est un peu moins maintenant, Danilo Brito. Wow. Donc ça, c'était en 2005, un jeune bandoliniste de talent, Danilo Brito, qui avait invité quelqu'un de la génération précédente, Altamiro Carrillo, à la flûte, encore dans un grand classique de Pichinghi, un Record d'Assens. Tu le connaissais, celui-là ?
Oui.
Ouais. Bon, c'est impossible de prendre par surprise Christian.
Oui, bien sûr que c'est possible.
Voilà. Donc, on va. Alors, on rappelle que vous pouvez aller consulter sur le site laroda.fr le programme du festival de Chaux, dont Cristiano est le principal animateur. Et on va se dire au revoir sur un dernier morceau, cette fois-ci avec un grand saxophoniste de jazz et de show brésilien, mais qui a toujours su maintenir chaque style à sa place en évitant de les mélanger, Paulo Moura, qui dans sa jeunesse a pris des leçons auprès de Pichinghi.
Ah, vous êtes pas tout, t'es...
L'envie de danser sur le son de Paulo Moura. On dit au revoir à Cristiano.
Au revoir, merci beaucoup d'être venu. Pour ton invitation.
Oui.
C'est un plaisir.
Et au revoir à Maître Sidi qui a Sidi, encore
merci.
Officié.
Au revoir.
Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle promenade brésilienne sur Radio Galère 88.4, en général le premier lundi du mois.